Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng.
Bien, bonjour et bienvenue à tous. Et avant toute chose, bien sûr, il nous faut sacrifier un rituel annuel. Donc, je vous présente tous mes vœux, les meilleurs pour 2024, dans le meilleur des mondes possibles. Même si le monde qui est le nôtre n'a décidément pas l'air de vouloir prendre le chemin. Oui, s'il vous plaît, éteignez les portables. Je ne le dis qu'une fois. Donc, ce monde qui n'a pas l'air de vouloir prendre le chemin de la paix et de l'harmonie entre les peuples, on aurait même plutôt l'impression d'un empressement à se jeter dans la mêlée de tous les côtés, ce qui fait craindre quelque peu que tous les foyers de violence allumés un peu partout finissent par se rejoindre dans un embrasement général. Alors ça, c'est mon côté pessimiste qui parle. Alors évidemment, espérons que ça ne se produira pas, mais en tout cas, c'est sans doute pour cette raison que notre nouvelle année à nous commence sous le signe de la violence politique, avec la sortie en librairie de cet ouvrage collectif que je vous signalais il y a quelques semaines avant les fêtes, et qui nous fournit malgré tout, malgré son titre peu festif, vous me le concéderez, il nous fournit l'occasion de fêter quelque chose ensemble, c'est-à-dire sa sortie. Et donc vous êtes toutes et tous invités jeudi prochain, 18 janvier, à partir de 18h30, à la présentation du livre par les directeurs, c'est-à-dire Henri Laurence et moi-même. Henri Laurence, que vous connaissez sans doute comme le professeur ici au Collège de France d'histoire moderne du Moyen-Orient. Et certains auteurs du volume seront présents aussi, on l'espère. Donc cette présentation se tiendra dans les locaux des éditions Hémisphère, qui sont situés aux 3 quais de la Tournelle. C'est un emplacement absolument idéal en bord de Seine, entre Notre-Dame et l'Institut du monde arabe. Donc je répète, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Alors je compte bien que vous ne viendrez pas tous, parce qu'on ne tiendra pas tous à l'intérieur. Bon, et s'il fait froid comme aujourd'hui, ça va être un peu pénible de rester dehors. Alors, de violence politique, il en a été question depuis le début de ce cours, en novembre dernier, quand nous avons entrepris d'aborder la façon dont le fameux verdict de Montesquieu sur le caractère despotique de la Chine a été accueilli en Chine même, en commençant, comme c'est notre méthode habituelle, par l'actualité la plus contemporaine, pour remonter ensuite, de manière généalogique, dans le passé et la longue durée. Nous avons ainsi pris pour point de départ le point de vue d'un universitaire chinois bien en vue, tellement en vue qu'il a été nommé à l'Académie pontificale, bien qu'étant un marxiste convaincu, n'est-ce pas ? Il s'agit donc du professeur Bai Tongdong de l'université Fudan de Shanghai, qui, soit dit en passant, a été dans la mouvance de ce qu'on a pu appeler les Straussiens chinois, à la suite de Kan Yang et de Liu Xiaofeng, dont nous avons pas mal parlé il y a peu de temps. Et donc ce professeur Bai Tongdong conteste, bille en tête, donc le verdict de Montesquieu. Il s'est lancé ces dernières années dans une série de publications et de conférences aux États-Unis, hein, les États-Unis qu'il connaît bien pour y avoir obtenu son doctorat de PhD et enseigné pendant plusieurs années, donc aux États-Unis, en Europe, mais aussi, chose plus étonnante, tout dernièrement, c'est-à-dire en septembre 2023, en Inde. Alors, je suis assez bien placée pour savoir que c'est un fait plutôt rare pour un universitaire chinois de Chine populaire d'être reçu en Inde. Il y a un véritable non-dialogue entre ces deux grandes puissances asiatiques que je déplore en toute occasion. J'essaye d'y remédier justement en faisant le voyage en Inde tous les ans. Ici, j'ai été assez étonnée de voir que le professeur Baitongdong était aussi reçu. Donc, vous le voyez ici sur la fiche de sa conférence qu'il a présentée à l'ICS, c'est-à-dire l'Institute of Chinese Studies de Delhi. Alors, dans ces publications et ces conférences concernant justement le point de vue de Montesquieu, Baitongdong fournit le résumé suivant. Il dit « La raison pour laquelle la théorie d'une Chine traditionnelle despotique est si répandue est sans doute que l'Occident a eu avant tout une approche de type orientaliste, c'est-à-dire en fait en rejetant la Chine dans une altérité radicale, à laquelle s'est ajoutée une grande ignorance de la Chine. En général, ça va ensemble, hein, l'attitude orientaliste, c'est-à-dire cette façon de dire la Chine est autre, va souvent de pair avec une certaine ignorance, hein, de la réalité chinoise. Alors, en passant ensuite par l'intermédiaire du Japon, cette théorie s'est imposée aux intellectuels chinois modernes eux-mêmes, qui étaient alors en quête de salut national. Ceci n'explique toutefois pas que ce soit dans une Europe animée de sentiments favorables vis-à-vis de la Chine que Montesquieu a sorti sa théorie sur le despotisme de la Chine. Ici, donc, Baitongdong souligne le paradoxe qu'il y a chez Montesquieu de qualifier la Chine de despotique dans un contexte milieu du XVIIIe siècle où règne plutôt une sorte de sinomania, hein, c'est-à-dire où les missionnaires jésuites en particulier en fait ont véhiculé en Europe une vision plutôt idéalisée donc de la Chine. En conséquence, si on veut réfuter la théorie d'une Chine traditionnelle despotique, il faut commencer par une analyse critique de celle de Montesquieu qui en est à l'origine. En réalité, la théorie du despotisme chinois est une mauvaise compréhension du système politique chinois traditionnel, mais, ironiquement, ce sont précisément les errances induites à l'ère moderne par cette mauvaise compréhension qui ont mis la Chine sur la voie du despotisme après l'effondrement du système politique traditionnel, corroborant ainsi, ironiquement, la théorie de Montesquieu. Alors, en ce qui nous concerne, sans reprendre le parti pris accusateur de Baitongdong qui reproche notamment au Japon, d'avoir répandu la thèse du despotisme chinois pour mieux condamner la Chine et, partant, mieux la coloniser. Nous avons essayé d'analyser objectivement l'historique de la réception de Montesquieu d'abord au Japon, puis en Chine. Donc nous avons beaucoup insisté sur cette médiation japonaise de la réception de Montesquieu en Chine. Nous avons ainsi noté l'importance de la distinction entre les trois pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire, formulé par Montesquieu. Cette distinction a, comment dire, connu un très grand retentissement dans le Japon de l'ère Meiji à partir de 1868. Et ensuite, nous avons vu la diffusion de cette idée en Chine dans le contexte du fameux siècle des humiliations à la suite des guerres de l'opium. Et alors, nous avons vu comment les élites chinoises ont tenté d'encaisser le choc, le choc de ces guerres de l'opium menées par les puissances occidentales sur le territoire chinois, comment elles ont tenté d'assimiler ce choc en mettant au point la fameuse formule du Zhongqixiong, que vous avez ici en verticale, c'est-à-dire donc Zhong, le centre, la Chine, comme constitution de base, comme constitution fondamentale, et Xi, c'est-à-dire l'Ouest ou l'Occident, simplement comme, bon à être utilisé. C'est-à-dire que l'idée, c'est certes, les Occidentaux ont montré leur suprématie sur le plan technologique, en arrivant chez nous avec leur canonnière, etc. Bon, mais ça ne nous empêche pas, nous, Chinois, en fait, de rester Chinois et de maintenir donc nos traditions, notamment politiques. Alors ça, c'est une formule qui a fait florès dans la génération, disons, de la première moitié, ou enfin, non, plus exactement, enfin, du milieu du 19e siècle, avec Feng Guifeng, qui est né en 1809, ou Zhang Zhetong, qui est né en 1837. Mais, comme nous l'avons vu, cette formule est déjà jugée insuffisante et inopérante par la génération suivante, à savoir celle de Yanfu, né en 1854, et de Liang Qichao, né en 1873. Nous avons lu en particulier la dernière fois la diatribe de Yanfu, justement, contre cette formule, où il dit que c'est une formule qui peut être absolument délétère, justement, pour l'avenir de la Chine. Se faire illusion sur justement cette possibilité de garder une partie des traditions chinoises, c'est tout à fait nocif. Alors, nous avons également vu la dernière fois comment Liang Qichao et Yanfu ont tous les deux été les premiers passeurs et des passeurs de premier ordre des idées de Montesquieu en Chine, mais en fait, chacun de manière et dans un esprit assez différent. Vous aurez remarqué que donc Yanfu est plus âgé que Liang Qichao de 20 ans, ils ont quand même 20 ans d'écart. Ils ont des personnalités, des types de formation très différents, et ils sont dans des situations également très différentes, hein, puisque, comme vous le savez, Liang Qichao, à la suite du fiasco de la tentative de réforme de 1898, a dû prendre refuge au Japon, alors que Yanfu, lui, est resté en Chine. Mais malgré tout, ils ont donc cette relation extrêmement complexe dans laquelle ils ont en même temps des idées, des centres d'intérêt en commun et des façons très très différentes de les aborder. Liang Qichao, après justement s'être exilé au Japon, lui compile ce qu'il arrive à trouver sur Montesquieu en traduction japonaise, hein, alors que Yanfu, lui, qui a été formé en anglais, hein, traduit intégralement de l'esprit des lois, hein, à partir de l'anglais. Donc là, vous avez déjà en fait deux approches assez différentes. Et de la même façon, Liang Qichao, à l'instar de ses sources japonaises, met l'accent sur l'idée de tripartition des pouvoirs, selon Montesquieu, alors que Yanfu, lui, s'intéresse davantage aux théories de Montesquieu sur le constitutionnalisme. L'autre différence aussi, c'est que Liang Qichao fait passer ses idées dans des articles de journaux qu'il a créés au Japon, hein, alors que Yanfu, lui, se consacre à des traductions d'œuvres intégrales, principalement d'auteurs anglais, qu'il lit, comme je viens de le dire, en version originale. Alors, Yanfu, on le sait, connaissait bien les idées de Liang Qichao sur les diverses constitutions du monde, mais on sait aussi qu'il désapprouvait totalement l'utilisation par Liang Qichao de traductions japonaises et d'ouvrages secondaires. Il est très net que Yanfu avait une dent contre le Japon. Je pense qu'il avait déjà pressenti que le Japon allait être le principal agresseur sur la Chine au début du XXe siècle. Et donc il est très anti-Japon, alors que Liang Qichao, bien évidemment, étant réfugié au Japon, est plutôt pro-japonais. Alors, dans une lettre au directeur du journal diplomatique, hein, que nous avons déjà cité, mais nous n'avons pas cité ce passage-là, Yanfu critique l'ensemble du programme des nouvelles politiques, les fameuses Xinzheng, de la cour manchou des Qing, qui, en fait, dans les toutes premières années 1900, après l'échec du mouvement de réforme de 1898, finit par se dire qu'il faudrait peut-être envisager de changer quelque chose. Et donc, la cour des Qing commence à essayer d'imiter les institutions politiques et les idées de ce que Yanfu appelle l'érudition orientale. Et ce qu'il veut dire par là, c'est l'érudition japonaise. Encore une fois, j'en profite pour rappeler que quand on arrive avec ses gros sabots en parlant de contraste ou d'opposition Orient-Occident, il faut toujours préciser ce qu'on entend par là, hein, parce que en fait, pour les Japonais, l'Occident c'est la Chine, et pour les Chinois, l'Occident c'est l'Inde. Voyez, enfin, donc quand de Chine on parle de l'Orient, on parle du Japon. Hein, et en fait, le Japon, à partir du XXe siècle, devient en réalité une puissance occidentale. Bien, j'espère que vous vous y retrouvez. Bon, alors. Donc, dans sa correspondance privée, Yanfu écrit même qu'il éprouve une espèce d'aversion, et même il dit un dégoût, hein, quand il lit les journaux édités par Liang Qichao, parce que pour lui, Liang Qichao discute toujours des questions théoriques et pratiques concernant l'art de gouverner de manière superficielle. Alors, je vous montre ici donc un de ces textes de Liang Qichao qui porte ici sur Ke Guo Xian Fa Yi Tong Lun. Donc c'est un texte qui porte sur les différences entre les constitutions des différents pays, hein, qu'il écrit peu après son exil au Japon, donc en 1899, et où il essaye, le pauvre, de se dépatouiller justement dans toute cette terminologie nouvelle, hein, avec d'anciennes traductions qu'il reprend, mais en fait avec de nouvelles traductions qu'il propose. Hein. Alors, c'est peut-être ça qui irrite Yanfu, qui est un esprit extrêmement rigoureux et qui n'aime pas qu'on soit dans l'approximation. Alors, que dit ce texte ? Xian fa zhe, yin yu chen wei constitution, 其意盖未可为国家一切法律根本之大典也。Donc, ce qu'on appelle en chinois, donc, 宪法, c'est le mot anglais constitution, donc constitution, et dont le sens peut signifier donc toutes les lois fondamentales, toutes les grandes lois fondamentales de l'État.故苟凡属国家之大典，无论其为专制政体，就亦为君主之国；为立宪政体，就亦为君民共主之国；为共和政体，就亦为民主之国。斯皆可称为宪法。Donc, Ainsi que ce soit dans un régime despotique, je vous ai mis l'expression donc en soulignant en rouge, ou dans l'ancienne traduction, alors je pense qu'ici, Liang Qichao fait allusion donc à la traduction japonaise, dans l'ancienne traduction, un État dirigé par un monarque, un junzhuzhiguo, que ce soit un régime constitutionnel ou, dans l'ancienne traduction, un État co-dirigé par un monarque et le peuple, ou que ce soit un régime républicain, dans l'ancienne traduction, un État dirigé par le peuple, minzhuzhiguo, tout cela semble, dans tous ces cas, il semble possible de parler de régime constitutionnel. Alors, 政体之种类，昔人虽分为多种，然按之今日之各国，实不外君主国与共和国之二大类而已。其中于君主国之内又分为专制君主、立宪君主这二小类。Donc, même si par le passé on avait l'habitude de distinguer de multiples formes de gouvernement, si l'on prend les divers pays qui existent aujourd'hui, on n'y distingue pas plus de deux types.À savoir, d'un côté, donc, les monarchies, junzhuguo, et les républiques, gonghekuo. Et dans les monarchies, on distingue deux sous-catégories, à savoir donc, les zhuanzhijunzhu, c'est-à-dire les monarchies autocratiques, et les lixianjunzhu, et les monarchies constitutionnelles. Alors, ce mot « zhuanzhi » que j'ai souligné en rouge pour traduire l'idée de despotisme, Liang Qichao le tient donc de la traduction, de la première traduction japonaise, enfin c'est un essai de traduction plus exactement, en japonais, de l'esprit des lois, faite par Ga Noriyuki, dont vous voyez, vous voyez les kanji, et si vous lisez les kanji, vous vous apercevez qu'il s'agit en fait d'un nom chinois, un He Li Zhi. Mais He Li Zhi, c'est en fait un chinois qui vivait au Japon et donc qui est complètement en fait acculturé. Et donc, Ga Noriyuki, c'est lui qui a proposé cette traduction de la notion de despotisme ou d'autocratie par sensei en japonais ou zhuanzhi en chinois, dans cette traduction de l'esprit des lois qui donne en fait en traduction japonaise donc, l'essence, la quintessence des 10 000 lois. Alors, ce qu'on comprend d'après le texte de Liang Qichao que nous venons de lire, c'est que, comme nous allons le voir, il retient l'étiquette de Chuan Zhe Junzhu, c'est-à-dire de monarchie autocratique, pour décrire le régime chinois traditionnel. Alors, en effet, en 1903, Liang Qichao entreprend donc de quitter la Chine pour une tournée de par le monde qui le fait passer par Singapour, les Philippines, l'Australie, le Canada et surtout les États-Unis. Alors, aux États-Unis, Liang Qichao sillonne véritablement le pays. Il a même l'occasion d'aller serrer la pince et de parler au président Roosevelt et à des gens importants comme J.P. Morgan. Chose importante, il rend visite aussi aux Chinatowns, c'est-à-dire donc ces quartiers chinois de San Francisco et de New York. Alors, vous avez ici une photo qui date de l'époque où Liang Qichao l'a vu, du Chinatown de San Francisco. Donc là, vous voyez en fait un mélange assez intéressant, un mélange vestimentaire. Nous avons beaucoup parlé justement du mélange linguistique, mais ça se traduit aussi sur le plan vestimentaire. Vous avez ces Chinois qui portent encore des chaussures en tissu à la chinoise, mais ils ont par-dessus quelque chose qui ressemble à un vêtement occidental et surtout un chapeau de type occidental. Donc voilà ce que vous auriez vu au Chinatown de San Francisco si vous y aviez été dans les années 1900. Alors, ce que Liang Qichao voit chez ses compatriotes chinois exilés à l'étranger, aux États-Unis, c'est que, en fait, ils souffrent des mêmes symptômes que les Chinois à la maison. C'est-à-dire, ils constatent que, en fait, les Chinois, en tant qu'essence nationale, ne sont pas encore prêts pour la liberté qu'exigent justement les systèmes politiques occidentaux. Et il en conclut même, je le cite, « Nous autres Chinois, nous ne sommes capables d'accepter que le despotisme et nous ne sommes pas encore capables de jouir de la liberté. » Et pour le dire en un mot, les Chinois d'aujourd'hui peuvent être seulement gouvernés de manière autocratique. Ils ne sont pas encore prêts pour justement exercer leur liberté. Là, nous revenons donc en bas de la diapositive, ici, à un texte que Liang Qichao écrit en 1906, c'est-à-dire à son retour de cette tournée dans le monde occidental. Et il écrit ce texte qui s'intitule donc « Kaiming Zhuan Zhe Lun », c'est-à-dire donc un texte qui porte sur le despotisme éclairé. Dans ce texte, il indique clairement que c'est bien le despotisme, même si on peut considérer que c'est un despotisme plutôt éclairé, et non pas la démocratie qui s'adapte à la situation de la Chine, étant donné que pour lui, les Chinois ne sont pas qualifiés pour pouvoir jouer un rôle décisif dans la politique du pays. Donc, ce qui nous intéresse ici, au premier chef, c'est que, dans l'esprit de Liang Qichao, le despotisme n'est pas exactement perçue de manière totalement négative, hein, et c'est pour lui, effectivement, hein, là il est d'accord avec Montesquieu, que c'est le régime qui s'applique à la Chine. Alors, en contraste avec ça, hein, nous avons, d'autre part, ce que fait Yanfu, qui lui est en Chine. Hein. Il se promène pas partout. Il s'est promené en Angleterre quand il était jeune, mais en fait, il se plonge ensuite dans un travail de traduction acharné en restant chez lui. Hein. Alors, étant d'un tempérament extrêmement réfléchi et, comme je l'ai dit tout à l'heure, rigoureux, hein, Yanfu refuse de s'engager dans des débats sur des idées qu'il ne comprend pas parfaitement, hein, et il préfère revenir donc aux sources originales, hein, les traduisant intégralement. Hein. Donc il se constitue un fonds de sources européennes essentiellement en anglais, hein, pour se définir donc un nouveau vocabulaire, un nouveau langage et partant de nouvelles idées. D'une certaine façon, ce qu'on pourrait dire, c'est que Yanfu reproche à Liang Qichao de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire en fait de se lancer dans des débats d'idées alors que la terminologie n'est même pas tout à fait fixée. Alors, c'est dans cet esprit que, comme nous l'avons vu, Yanfu se lance dans ce travail absolument monumental de traduction. Je vous rappelle, hein, la liste qui n'est pas des moindres, d'abord le Evolution and Ethics de Thomas Huxley, The Wealth of Nations de Adam Smith, The Study of Sociology de Herbert Spencer, On Liberty de John Stuart Mill, History of Politics de Edward Jenks, De l'Esprit des Lois de Montesquieu, A System of Logic, toujours de John Stuart Mill, et Primer of Logic de William Jevons. Hein. Alors, vous voyez que, on l'a déjà constaté, que au milieu de toute cette belle compagnie anglaise, l'unique auteur français, hein, bien de chez nous, c'est donc Montesquieu. Et en fait, même si Yanfu est anglophone, hein, et il privilégie bien sûr les sources anglaises, c'est quand même pour lui l'esprit des lois qui est le plus important et qu'il traduit de la manière la plus complète et la plus précise, parce que c'est grâce à cet ouvrage que Yanfu s'est constitué un tout nouveau langage politique, hein, qu'il a bien l'intention d'implanter dans la culture politique chinoise. Hein. Parce qu'au fond, après tout, on pourrait se demander pourquoi diable est-ce que Yanfu a pris la peine de traduire intégralement l'esprit des lois. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, hein, l'esprit des lois. C'est quand même très volumineux et entreprendre de traduire ça intégralement en chinois classique, en plus, c'est pas une mince affaire. Et il lui a fallu d'ailleurs 5 ans. Hein. Bon, 5 ans, 5 années pleines, puisque sa traduction, qu'il présente sous le titre de Fa Yi, c'est-à-dire les idées des lois, la signification des lois, paraît en 7 volumes de l'année 1904 à l'année 1909. Alors, la raison pour laquelle il se lance là-dedans, hein, c'est pas parce qu'il avait rien d'autre à faire, c'est que au début du XXe siècle, la Chine, et ça c'est vraiment important, la Chine est confrontée au choix crucial, voire vital, entre faire une réforme constitutionnelle ou une révolution. Les chemins divergent. Hein, vous avez ces deux voies possibles qui vont être donc discutées, débattues pendant toutes les premières années du XXe siècle en Chine. Évidemment, comme ses contemporains, Yanfu considérait l'esprit des lois comme le classique du constitutionnalisme moderne qui faisait le plus autorité, hein, d'où évidemment sa volonté farouche de le traduire intégralement pour le présenter au public chinois. Alors, il commence par mettre en avant la fameuse idée de Montesquieu, sa classification des gouvernements, fondée sur la distinction entre la nature du gouvernement, hein, et le principe de ce gouvernement. Alors, la nature, c'est, nous dit Montesquieu, ce qui le fait être tel, c'est-à-dire ce par quoi donc un gouvernement est constitué, sa structure politique particulière. Alors que le principe, c'est, nous dit Montesquieu, ce qui le fait agir, c'est-à-dire ce par quoi donc le gouvernement est poussé ou motivé à agir. Ou bien donc, en d'autres termes, les passions humaines qui mettent le gouvernement en mouvement. Alors, au début du livre 2, hein, là je vous rappelle nos grands classiques quand même, hein, je crois j'espère qu'on a tous lu, mais enfin bon, c'est toujours bien de lire du Montesquieu, c'est un très beau style. Il propose sa propre classification donc des gouvernements. Ce livre 2 est intitulé « Des lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement ». Chapitre 1, de la nature des trois divers gouvernements. Et je cite Montesquieu, « Il y a trois espèces de gouvernements, le républicain, le monarchique et le despotique. Pour en découvrir la nature, il suffit de l'idée qu'en ont les hommes les moins instruits. Je suppose trois définitions, ou plutôt trois faits. L'un, que le gouvernement républicain est celui où le peuple encore, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance. Le monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies. Au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi et sans règles, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. » Alors ensuite, bon, je résume, hein, donc pour Montesquieu, les républiques se subdivisent en démocratie, c'est-à-dire l'ensemble du peuple qui détient le pouvoir suprême, et en aristocratie, c'est-à-dire une partie seulement du peuple qui détient le pouvoir suprême. Et les principes respectifs de ces gouvernements que Montesquieu vient de distinguer sont donc la vertu pour la démocratie, la modération pour l'aristocratie, l'honneur pour la monarchie et la crainte pour le despotisme. D'où la formule concernant la Chine, qui est un État despotique dont le principe est la crainte. Alors, en termes de traduction, le fa yi de Yanfu, donc sa traduction de l'esprit des lois, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la traduction dans laquelle il est le plus fidèle au texte original. Il a vraiment en fait fait un gros effort justement pour coller au texte. Alors, malgré cela, justement, c'est tout à fait intéressant de voir qu'il a une tactique de traduction différente pour justement les natures de gouvernement et pour les principes de gouvernement. Alors, pour les natures de gouvernement, les formes de gouvernement, c'est-à-dire monarchie, république, etc., etc., il utilise donc le vocabulaire existant, hein, qui a donc été en grande partie mis au point quand même par les Japonais, hein, mais pour les principes de gouvernement, c'est-à-dire justement ce qu'il appelle les passions humaines qui motivent un gouvernement à agir, hein, là, il fait appel à un vocabulaire traditionnel chinois, hein, hein, parce que précisément il s'agit de traduire des émotions, hein. Et il pense que justement, en fait, d'employer des termes traditionnels chinois, ça va parler davantage au public chinois. Hein, c'est ainsi que, pour vertu, la vertu républicaine, hein, il emploie le mot de en chinois, hein, de qu'on a justement, en fait, conventionnellement traduit par vertu, mais qui en fait est d'abord en fait une sorte de charisme ou de puissance inhérente à une personne d'exception. De la même façon, il emploie aussi la notion de li, c'est-à-dire la notion de sens des rites, pour traduire l'honneur, hein, et la notion de xing, c'est-à-dire de punition ou de châtiment pénal, pour traduire la crainte. Donc là, c'est tout à fait intéressant de voir cette différence de technique de traduction, justement, pour ces deux catégories. Alors, au final, la traduction de Yan Fu a fourni une base assez solide pour comprendre le constitutionnalisme occidental, parce que l'ensemble des institutions, des lois et des mœurs ont été présentées dans justement une totalité théorique. Ça, c'était justement l'avantage de traduire l'esprit des lois intégralement. En outre, vous avez l'introduction de nouveaux termes, de nouvelles notions qui ont remplacé l'ancien cadre tripartite simplifié mis au point par les Japonais au début de l'ère Meiji. Hein, et c'est ainsi que, d'une certaine façon, Yan Fu a fourni une sorte de boîte à outils conceptuelle et terminologique, justement, pour l'établissement, l'instauration d'une constitution dans le régime politique chinois. Alors, malgré cela, on voit très bien dans les commentaires, les apartés que Yan Fu fait tout en traduisant l'esprit des lois de Montesquieu, on voit très bien qu'il n'est pas tout à fait satisfait de la classification des gouvernements établi donc par Montesquieu, et qu'il essaye de reformuler une typologie alternative. Alors ça concerne essentiellement deux questions, hein, que soulève Yan Fu dans son travail de traduction. Alors premièrement, est-ce que le régime chinois traditionnel était véritablement despotique, hein, dans la description de Montesquieu. Donc là, on voit que Yan Fu, tout en ayant cette volonté de faire passer les idées de Montesquieu en chinois, hein, il reste quand même critique. Et donc là, comme beaucoup d'intellectuels chinois qui lui ont succédé, il pose cette question, mais est-ce que, en fait, la façon dont Montesquieu décrit le régime politique chinois traditionnel est véritablement fidèle à la réalité. Est-ce que on peut parler d'un despotisme au sens de Montesquieu ? Deuxième question, hein, c'est étant donné l'autorité de Montesquieu en matière de constitutionnalisme, sa classification des gouvernements était néanmoins trop statique. Hein, c'est-à-dire, vous avez des catégories qui sont très très comment dire compartimentées, et pour Yan Fu, qui vit dans un contexte extrêmement tourmenté, mouvementé, en évolution perpétuelle, hein, cette catégorisation, hein, n'est pas exactement adaptée pour une théorie du changement constitutionnel, hein, et demande donc à être un petit peu recadrée. Hein. Alors, là, on voit que, contrairement à la plupart de ses contemporains, à commencer par Liang Qichao, qui accepte assez facilement finalement description du despotisme chinois par Montesquieu, et on voit que Liang Qichao dit oui, ben oui, c'est vrai quoi. Enfin, nous autres Chinois, au fond, c'est un régime despotique qu'il nous faut quoi. Bon, Yanfu lui se montre beaucoup plus sceptique quant à la validité donc de cette description du despotisme par Montesquieu au cas de du régime chinois. Alors, l'idée même du despotisme, c'est-à-dire dépourvu de tout élément d'État, de droit et de corps intermédiaire de gouvernement, hein, semblait absolument insoutenable à Yanfu dans sa logique de base. Hein, quand Montesquieu nous décrit donc le despotisme comme la loi d'un seul, sans autre loi et sans règles, la loi d'un seul qui gouverne tout par sa volonté et par ses caprices, là c'est quelque chose qui paraît totalement exagéré à Yanfu et qui justement conteste cette idée hein, parce qu'il pose la question: comment est-ce qu'un régime absolument despotique et corrompu a pu perdurer pendant des millénaires hein, en tant que ordre politique. Certes, bon, Yanfu reconnaît que Montesquieu décrit la Chine comme il la connaissait, mais d'un autre côté, il montre que l'histoire politique chinoise a largement démontré que le régime plus proche dans la catégorisation de Montesquieu, au fond, c'est la monarchie. Et ça n'est que dans les périodes de corruption, qui étaient souvent des moments de changement dynastique, que les empereurs se sont montrés despotiques au sens de Montesquieu. Autrement dit, donc, la Chine despotique de Montesquieu, au maximum, en fait, ça n'était vrai qu'à certaines périodes, hein, et pas certainement pas dans les principes du régime, hein, puisque en fait, la philosophie politique chinoise a bien développé la distinction entre des moments où règne la voix, hein, Yo Tao, hein, la voix. Morale et politique règne, et les moments où justement cette voie est perdue, hein, ou Tao, hein, c'est-à-dire où les empereurs perdent justement le sens de la voie, VOIE, et perdent justement cette éthique confucéenne. Donc en ce qui concerne l'agenda pratique, la thèse centrale de Yanfu était que, au fond, seule une démocratie constitutionnelle, ce qu'il appelle un Li Xian Minzhu, qui intègre donc la dynamique politique du pouvoir du peuple, le Minquan, seul donc ce régime-là pouvait établir un nouvel État chinois pour surmonter donc. Et conjurer donc la fatalité des cycles dynastiques. On a vu combien Yanfu s'opposait donc à son aîné Zhang Zhetong, hein, qui n'arrête pas de brandir cette fameuse formule de Zhong Ti Xiong, hein, en disant oui, restons chinois, etc. Là, en fait, Yanfu reconnaît qu'il faut changer les choses de fond en comble, mais lui, en fait, ne va pas vers la solution de la révolution, il va vers justement cette solution constitution, d'une démocratie constitutionnelle. Et alors, ce faisant, Yanfu prend une position qui est très distincte dans l'opinion publique générale de la fin de la dynastie Manchu des Qing, hein, qui évidemment, dans les premières années du XXe siècle, on ne savait pas encore que cette dynastie allait s'effondrer et que tout le régime impérial allait s'effondrer. Hein, ça ne se passe qu'en 1911. Le gouvernement manchou et la plupart des réformateurs, comme Liang Qichao, étaient favorables à une monarchie constitutionnelle de type germano-japonais, c'est-à-dire dotée de puissantes prérogatives royales. Et à l'autre extrémité du spectre, vous avez donc les révolutionnaires comme Sun Yat-sen, qui va finir par l'emporter et établir la première république en 1912. Donc les révolutionnaires, au contraire, prônent un républicanisme démocratique. Et Yen Fu, dans tout ça, semble être le seul à promouvoir une position politique médiane, celle donc d'une démocratie constitutionnelle. Parce que pour lui, dans ce type de régime, la Constitution stipule les droits des citoyens et les devoirs correspondants. Donc là, elle inclut justement cette fameuse théorie du Minchen, des droits du peuple, à laquelle Chang Zedong était farouchement opposé. Donc là, le peuple a à la fois des droits et des devoirs. Alors, le problème que je signale en passant, je dis en passant parce que ce n'est pas notre question principale ici, mais c'est que, en fait, la notion de droit et de devoir du peuple sont traduits en chinois par le même mot, tuan. D'où évidemment là aussi une ambiguïté qu'il va falloir résoudre. Et alors, selon cette théorie, le peuple devient alors souverain et peut superviser donc les politiques administratives et fiscales. Et donc, grâce à cet arrangement institutionnel, les citoyens exercent leurs droits et leurs libertés politiques, ce qui conduit à l'amour patriotique, l'amour de la patrie, propre à un État libre, et ça conduit donc à ce que les citoyens fassent de l'État leur bien propre. Parce que selon Yen Fu, le patriotisme et la solidarité civique qui en résulte dans tout État constitutionnel, lequel est supérieur donc à la monarchie à cet égard, parce que le patriotisme faisait justement totalement défaut dans l'État chinois traditionnel. Donc il y a pour Yen Fu justement cette espèce de plus qu'apporte la démocratie constitutionnelle, c'est-à-dire justement l'esprit patriotique, l'amour de la patrie. Et donc pour lui, en fait, combinaison de démocratie constitutionnelle et d'amour de la patrie, qui correspondrait donc à la vertu républicaine de Montesquieu, ça correspond tout à fait à ce que Yen Fu appelle de ses voeux. Alors, il résume la chose en disant, je le cite, « Dans un gouvernement monarchique, l'autorité de l'État émane d'un seul et est diffusée parmi le plus grand nombre, tandis que dans une démocratie, elle émane du plus grand nombre et converge vers l'unique. » Donc, il montre que, en fait, monarchie et démocratie, en fait, sont des mouvements inverses, en quelque sorte. Et donc, il voudrait justement que la Chine passe de la monarchie à la démocratie, donc qu'elle inverse le mouvement. Alors, en 1905, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la cour manchoue commence à s'aviser qu'il serait temps d'envisager de changer quelque chose, après avoir réprimé dans le sang la tentative de réforme de 1898. Alors, la cause immédiate est tout à fait évidente, c'est la victoire japonaise dans la guerre russo-japonaise de 1905. Et cette victoire est saluée par les élites chinoises comme, je cite, une victoire du constitutionnalisme japonais sur l'autocratie russe. Donc là, c'est un argument de plus pour justement instaurer la constitution dans le régime chinois. Alors, à la suite justement de cette décision de la cour manchoue, hein, alors imaginez une Chine en pleine ébullition politique et intellectuelle, hein, donc vous avez les gens qui veulent la révolution, les gens qui veulent la constitution, les gens qui veulent une constitution comme ci, comme ça, etc. Bon, il y a un fou est invité à donner une série de 8 conférences publiques sur la politique par l'Association de la jeunesse de Shanghai au cours de cette même année 1905. Alors, vous voyez que Yin Fu, en 1905, devient en fait une sorte d'intellectuel public, hein, au sens propre du terme, à tel point que justement la jeune génération veut l'entendre justement sur cette question des différentes formes de gouvernement. Hein. Et ces conférences sont largement diffusées parmi les intellectuels chinois. Des comptes rendus sont publiés dans 4 journaux et magazines différents. Hein. Et le texte de ces conférences sur la politique, Zheng Zhejiangyi, est publié par la très prestigieuse presse, enfin commercial press, la Shanghu Yinshuguan de Shanghai, et le tirage est réimprimé dans les 2 mois qui suivent. Autant dire que c'est un best-seller. Hein. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que grâce aux recherches très méticuleuses d'un chercheur, on s'est aperçu que Yin Fu a plagié les idées d'un politologue anglais, sans le dire. Bon, alors, évidemment, les gens qui défendent Yin Fu disent « Mais non, c'est pas un plagiat, il s'est juste inspiré enfin, des idées. » Mais enfin, bon, disons que, quand même, il aurait quand même pu citer ses sources. Alors, il s'agit de ce monsieur, hein, qui s'appelle donc John Robert Seeley, qui a vécu entre 1834 et 1895, et qui était donc un Regius Professor of Modern History, hein, donc un professeur d'histoire moderne à l'université de Cambridge en Angleterre. Alors, l'étude justement des idées de ce John Seeley, qui réapparaît dans les conférences de Yin Fu de 1905, est étudié par un politologue taïwanais du nom de Carl K.Y. Shaw. Alors, son nom chinois, je crois que c'est Xiao Gaoyan. Dans un très long article, qu'il publie en anglais, qui s'intitule « Yin Fu, John Seeley and Constitutional Discourses in Modern China, a Study in Comparative Political Thought ». Donc, Yin Fu, John Seeley et les discours constitutionnels en Chine moderne, une étude en pensée politique comparée. Et c'est paru donc dans la revue History of Political Thought, l'histoire de la pensée politique, de 2016. Je suis obligée de m'arrêter là. Nous reprenons ceci la prochaine fois. Mais la prochaine fois, donc, nous verrons justement combien ce moment des premières années du XXe siècle sont absolument cruciales et pourquoi beaucoup d'intellectuels chinois en fait les regardent vers ces années-là enfin de façon presque nostalgique parce que il y avait à ce moment-là une espèce d'ouverture, tout était possible, hein, alors que maintenant bon, on a l'impression que tout s'est refermé. Donc il y a ce moment tout à fait crucial et nous allons ensuite en fait retourner le regard, hein, réinverser le regard en nous intéressant à la façon dont Montesquieu en fait a perçu la Chine. Jusqu'à ce moment, nous avons vu comment les Chinois perçoivent cette Chine de Montesquieu, mais maintenant il s'agit aussi de voir exactement comment Montesquieu a vu la Chine. Bien, de nouveau, donc, bonne entrée dans 2024 et la semaine prochaine, si le Bouddha le veut bien. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.